Radio Kapi. Oh, Kapi. Belinda Bosumba nous informe.
À la une, ces affrontements depuis quelques temps entre le M23 et les Wazalendo dans différentes localités de Rutshuru au Nord Kivu, ceci occasionne une dégradation de la situation humanitaire, signale des sources sur place. Affaire construction d'une nouvelle prison à Kisangani, le ministre de la Justice visé par deux questions orales avec débat. Les députés nationaux Fontaine Mangala et Willy Mishiki disent vouloir tirer au clair la confusion autour du décaissement ou pas de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison sans qu'il y ait passation régulière des marchés publics. Et puis ce matin, nous recevons René Eaka Ibambi, président du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Touélé. Il nous parle de l'entrepreneuriat des jeunes à Isiro, où plusieurs opportunités s'offrent aux jeunes pour entreprendre et transformer les idées en actions concrètes. À tous et à toutes, bonjour. Des affrontements opposent depuis un certain temps les rebelles du M23 ou Wazalendo dans différentes localités de la région de Bambo et Tongo dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Nous sommes bien dans le Nord Kivu. Plusieurs sources locales affirment que les rebelles du M23 réoccupent depuis mercredi 14 mai les agglomérations de Kishishe et Bambo après y avoir délogé les Wazalendo. La situation reste tendue car les Wazalendo se sont retranchés non loin de la zone. À tout moment, ces deux forces risquent de s'affronter, indiquent nos sources. Ces affrontements intenses occasionnent une dégradation de la situation humanitaire, ajoutent les mêmes sources. Le point avec Grace Hamzati.
Une accalmie est signalée ce jeudi dans la zone en dépit des tirs sporadiques qui sont toujours entendus dans une partie de la localité de Bambo, renseignent nos sources. Cette reconquête des rebelles dans la zone de Kishishe et Bambo s'explique, d'après les sources locales, par le fait que depuis l'abandon de ces milieux par les rebelles, il y a plus d'une année, les groupes armés locaux y ont renforcé leur présence en organisant des attaques et embuscades récurrentes contre les rebelles. Cette région est stratégique selon les acteurs locaux, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi du fait des divers axes routiers importants qui facilitent le passage des renforts et autres mouvements pour les rebelles entre Massis et Rutshuru, indique-t-il. D'autres informations recueillies rapportent que depuis le matin de ce jeudi, le M23 a renforcé ses positions à Bambo. Un notable de la région ajoute que deux personnes ont été blessées le mercredi à Kishishe et des kiosques pillés à Bambo. Une grande partie de la population est restée terrée chez elle pendant ces affrontements à l'arme lourde enregistrés le mercredi. En outre, depuis le début de cette semaine, les rebelles du M23 attaquent les Wazalendo dans la région de Bundasi et Nushababwe, dans les groupements de Tongo, mais aussi les FDLR dans la partie Mozambique du parc de Virunga.
Restons au Nord Kivu pour signaler que le stade de l'unité de Goma, longtemps fermé à cause de l'occupation par l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, est désormais rouvert aux activités sportives. La remise officielle aux autorités sportives de la ville est intervenue mercredi. Selon les sources de l'entente urbaine de football de Goma, une dernière réunion de programmation des prochaines rencontres sportives aura lieu ce week-end. Quelques joueurs ont déjà commencé à s'entraîner dans ce stade. Rappelons que cette ouverture est une réponse au plaidoyer mené par les autorités sportives au cours des deux derniers mois. Un tournoi dit de la paix est annoncé incessamment dans ce stade qui a été utilisé par l'AFC M23 pour des opérations militaires. Rendons-nous à Bounia, en Ituri. Près de 70 casques bleus marocains, dont 5 femmes, arrivées au terme de leur mission en RDC, ont reçu mercredi leur médaille des Nations Unies. C'était au cours d'une cérémonie solennelle à la base de la MONUSCO de Ndoromo, présidée par le commandant de la force de la mission onusienne. En un peu plus d'une année de présence sur le sol congolais, ces militaires ont rendu des bons et loyaux services à la population dans le cadre de la protection des civils, notamment à travers l'évacuation et la prise en charge médicale des FARDC et des civils blessés au front. Le point avec Jean-Claude Loki.
Il s'agit de l'unité médicale du niveau 2 de la MONUSCO à Ndoromo, où est soigné le personnel civil et militaire de la MONUSCO. Plusieurs civils et des militaires des FARDC blessés dans des affrontements contre les groupes armés ont été acheminés à Bounia en 2024 pour suivre des soins appropriés. Le major Aïmad Banou est officier de liaison du contingent marocain.
On est là pour donner de l'aide dans les évacuations, la stabilisation du patient, par exemple, qu'on vous venu de mentionner dans le territoire instable comme Djougou, Fataki, Harou et toutes les autres autres localités là où il y a des tensions ou bien des clashs entre les groupes armés.
Ce contingent fait aussi face à plusieurs défis dans la sécurité dans les territoires de Djougou et d'Iromo qui font accroître le nombre des personnes blessées. À cela s'ajoutent les contraintes logistiques qui ne permettaient pas d'apporter un soutien médical aux personnes qui ont besoin d'aide, parmi lesquelles figurent plusieurs vulnérables. Major Aymad Banou.
La présence des groupes armés non identifiés, les contraintes logistiques, ça entrave la démarche d'approvisionnement en médicaments ou bien tous les moyens logistiques dont on a besoin pour organiser de donner des médicaments pour la population vulnérable.
Ces soldats, au nombre de 68, vont bientôt quitter la RDC après plus d'une année durant laquelle ils ont servi la RDC sous les drapeaux de l'ONU. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Dans l'actualité aussi, l'affaire de construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, visé par deux questions orales avec débat. Les députés nationaux Fontaine Mangala et Willy Mishiki veulent tirer au clair la confusion autour du décaissement ou pas de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison sans qu'il y ait passation régulière des marchés publics. Dans sa question orale avec débat déposée hier, conformément aux articles 100 et 138 de la Constitution, l'élu de Kisangani dénonce les irrégularités qui entachent la procédure de construction de cette prison et exige des explications de Constant Mutamba. Fontaine Mangala explique au micro de Michel Kifindangoy.
Le ministre de la Justice a conclu un contrat de gré à gré avec une entreprise totalement inconnue dans une procédure totalement irrégulière d'une somme de 39 millions de dollars. Il faudrait que le ministre de la Justice nous explique la source de ce financement, parce que le ministère des Finances explique qu'il ne connaît pas la provenance de cet argent. Et il faudrait aussi que le ministre explique de quel compte exactement 19 millions de dollars dont le paiement a été effectué à cette entreprise est venu, de quel compte. Le ministre doit venir nous informer autour du financement obtenu des indemnisations issues des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo.
Pour sa part, l'élu de Walika, Léonore Kivu, dénonce des contradictions avec le communiqué du ministre des Finances et soupçonne un détournement des fonds dans cette affaire. Willy Mishiki invite le ministre de la Justice et ceux du Budget et des Finances à tirer au clair cette affaire de financement de plus de 39 millions de dollars destinée à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Pendant ce temps, l'ASBEL Congo Action pour la diplomatie agissante, CADA, encourage le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à maximiser la lutte contre la corruption et autres antivaleurs qui tirent le pays vers le bas. Le coordonnateur de cet ASBEL, Eric Kamba, a formulé cette demande dans une dépêche parvenue jeudi à Radio Capi. Cet acteur de la société civile demande également au président de la République de responsabiliser davantage des outils de contrôle, notamment l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, pour arriver à bout de ce fléau qui prive les caisses de l'État de ses ressources financières. Eric Kamba explique, il est joint par Plotin Yambenga.
CADA demande au président Félix Tshisekedi de prendre à bras le corps cette problématique de la corruption au même titre que la quête de la paix. De responsabiliser davantage les outils de contrôle, à doubler d'ardeur pour s'assurer à tous égards, engager la justice dont il est le magistrat suprême à ne transiger avec l'impunité aux fins de décourager les mauvaises pratiques qui plongent le pays dans l'abîme. Anticiper sur certaines exigences de partenaires américains, notamment l'assainissement du climat d'affaires, l'administration judicieuse de la justice et la bonne gouvernance caractérisée entre autres par la transparence dans la gestion de ressources minières et la lutte contre l'impunité. Nettoyer son entourage, dont certains membres avec une réputation sulfureuse semble ternir du fait même l'image de marque du pouvoir.
Province du Lualaba, la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles condamne les actes de violence perpétrés sur le site minier de Chabara au niveau du village Kawama à une quarantaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. Dans un communiqué de presse mardi, cette structure signale que des creuseurs artisanaux se sont soulevés et ont commis des actes de vandalisme sur le site. On signale des blessés et plusieurs dégâts matériels. Paula Munanga nous raconte.
Ces organisations de la société civile soulignent que le 12 mai dernier, des exploitants artisanaux qui ont initié une pétition pour revendiquer leurs droits ont vandalisé le site minier de la coopérative minière artisanale Comacat. Pour le moment, les raisons exactes de leur contestation ne sont pas encore connues. Les organisations notent qu'un dispensaire a été systématiquement vandalisé, des vitres et pare-brise de beaucoup de camions de transport de produits miniers cassés, des bureaux de la coopérative minière Comacat saccagés, des sommes d'argent, des appareils téléphoniques et d'autres biens de valeur emportés. Le communiqué signale aussi que les personnels médicaux et autres agents trouvés sur les lieux de travail ont été copieusement tabassés. Les organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles dans la province du Lualaba condamnent ces actes de violence et rappellent qu'un site minier artisanal n'est pas un champ de bataille ou un terrain pour se régler des comptes, c'est en revanche un espace de cohésion et d'entraide. Signalons que les services de sécurité ont mis la main sur une trentaine de manifestants et les ont présentés au ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Vers des solutions durables à la problématique de la desserte en électricité dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu, c'est le principal résultat d'une réunion convoquée par le gouverneur de province qui a rassemblé autour d'une même table tous les acteurs et représentants du secteur énergétique. Parmi les résolutions phares, l'interconnexion entre les entreprises productrices d'énergie. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Cette rencontre qualifiée de franche sans tabou visait à résoudre les différends qui freinent l'amélioration de la desserte en électricité dans les Grand Nord du Nord Kivu. Et les retombées sont déjà palpables. Première avancée concrète, Virunga Energy s'engage à une interconnexion avec Énergie du Nord Kivu, comme l'explique son directeur général Ephrem Balole.
Nous sommes disposés à rendre disponible l'électricité pour Butembo et nous avons écrit à ENK la lettre à laquelle ils ont répondu. Maintenant, nous attendons les négociations pour rendre disponible cette énergie 5 MW.
L'autorité provinciale se réjouit de cette avancée et espère voir s'installer un mécanisme de pérennisation de cette coopération naissante. Le général Évariste Kakule-Somo.
J'espère bien que nous allons nous retrouver dans un très proche futur afin que nous célébrions finalement la grande coopération qui vient de naître aujourd'hui dans le secteur de l'énergie. Très bientôt, les équipes techniques puissent se rencontrer et approfondir la réflexion. Et une décision finale sera prise à temps opportun.
Parmi les perspectives à court terme, la mise en place d'études pour cartographier les entités des territoires de Beni et de Lubero, encore non couvertes par les réseaux électriques, dans le but de planifier leur raccordement. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, les anciens travailleurs de la société Marsavco à Kinshasa exigent le paiement de leurs droits sociaux et salaires non perçus depuis près de 24 ans. Hier jeudi, ils se sont massés devant le ministère de la Justice, espérant une intervention décisive de l'État pour débloquer leur situation face à l'entreprise. On écoute à ce sujet Badi Bangé, l'un des 686 anciens travailleurs de la Marsavco. Il explique leur situation au micro de Gloria Lutula.
Nous sommes venus demander jusqu'à présent qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne veut pas nous payer. Ça fait maintenant 23 ans que nous réclamons notre argent. Jusqu'à présent, il n'y a pas qu'un de vous. Alors, nous avons tous les documents. Nous avons les documents du Conseil d'État qui nous autorise d'avoir cet argent. Nous avons le document du président des cours constitutionnelles qui a ordonné à ce qu'on nous donne notre argent. Mais on dirait que la Marsavco est au-dessus de la loi de la RDC. Donc on ne veut pas nous payer. Et nous, ce que nous regrettons, on ne comprend pas, nos autorités ne font absolument rien. Ce que nous demandons à nos autorités, nous mettre dans nos droits. Et nous regrettons beaucoup, on dirait que la justice est toujours malade, donc ça ne fonctionne pas. On pensait qu'avec le ministre Mutamba, ça pouvait aller, mais vraiment nous regrettons beaucoup.
Autre nouvelle, le contingent indonésien de la MONUSCO a initié un projet de production des pastèques en faveur des communautés locales victimes des atrocités des groupes armés dans le groupement de Tséré. C'est à la périphérie de la ville de Bunia en Ituri. Plus de 2 tonnes de ce fruit ont été produites dans la première phase de ce projet dont l'objectif est d'occuper des jeunes à risque en vue de contribuer au processus de paix en Ituri et favoriser la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Isaac Remoyope, reportage.
Des centaines d'habitants du village de Tchunga et ses environs dans les groupements de Tsere ont été employés dans ces projets qui a duré 3 mois. Ils ont planté des pastèques sur une superficie d'un hectare, ce qui a permis de produire plus de 2 tonnes de ces fruits qui ont été déversés mercredi sur les marchés de Bounia. Ce projet de la Monusco va d'abord permettre de baisser les prix de ces fruits qui se vendent en moyenne à 10 dollars la pièce parce que majoritairement importés de l'Ouganda voisin. Ensuite, il va permettre aux habitants employés dans ces projets de trouver des revenus pour leur survie. Les conseillers des jeunes de cette entité expriment sa satisfaction.
Nous avons accueilli ça avec beaucoup de satisfaction. Nous allons en profiter pour pérenniser ces projets.
Le vice-gouverneur de province qui a présidé la clôture de ces projets a remercié la Monusco pour cette action qui favorise l'autonomisation des jeunes à risque et surtout qui les empêche d'intégrer les groupes armés et se livrer aux violences contre les civils. Le général Raoul Chaloué.
Tout ce qui est encore en train d'être dans la brousse ou qui reviennent. On a besoin des jeunes pour faire le travail, avancer notre province.
Le gouvernement provincial s'est engagé à pérenniser et même à étendre ses projets en faveur des communautés locales. Bounia, Isaacré Moyope, Radio Okapi.
Actualité internationale. La capitale du Soudan a été la cible des nouvelles attaques des drones dans la nuit de mercredi à hier jeudi, avec pour conséquence directe l'interruption de l'électricité selon des déclarations de la compagnie nationale. Le FSR ont été en grande partie chassés du centre du Soudan ces derniers mois, mais ces combattants du général Emeti semblent avoir changé de tactique selon les analystes.
L'invité.
Nous recevons René Eaka Ibambi, il est président du conseil provincial de la jeunesse du Haut-Touélé. Avec lui, nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes à Isiro, chef-lieu de la province, où plusieurs opportunités s'offrent aux jeunes pour entreprendre afin de transformer les idées en actions concrètes. René Eaka Ibambi est avec André Kitenge.
René Eaka Ibambi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat. Comment ça se passe ici chez vous, vous comme président du conseil de la jeunesse?
L'entrepreneuriat dans la province de Haut-Touélé, c'est quelque chose soutenu par la communauté juvénile. Malheureusement, ça a été un flux limité suite à certains principes qui manquent, par exemple la formation dans les domaines professionnels, l'accompagnement technique. Il y a aussi l'accompagnement financier, donc qui pose un peu des problèmes. Voilà pourquoi nous avons dit que le flux d'être entrepreneuriat dans le Haut-Touélé, c'est un peu limité, mais la communauté juvénile est vraiment animée et à la fois de faire de l'entrepreneuriat dans la province du Haut-Touélé.
Y a-t-il d'opportunités dans le milieu?
Oui, il y a plein d'opportunités dans la province du Haut-Touélé. Il y en a trop. C'est presque illimité, si on peut le dire.
Dans quel domaine, précisément?
Nous pouvons parler de l'entrepreneuriat dans les domaines agricoles. Il y a plusieurs opportunités d'entreprendre dans l'agriculture. Et si on essaie un peu de débobiner différents secteurs agricoles, il y a l'élevage, il y a la pisciculture, les volailles, les différentes cultures maraîchères, cultures pérennes, ainsi de suite. Il y a plusieurs opportunités dans ces secteurs-là. Il y a aussi l'opportunité d'entreprendre dans les domaines techniques, par exemple dans la mécanique, l'électricité, la charpenterie, la construction, la plomberie. Et il y a plusieurs opportunités dans ces secteurs-là. Il y a aussi l'opportunité d'entreprendre dans les médias, les journalismes, donc les médias en ligne, les médias locaux, prenons le cas de différentes radios, FM et télévision. Il y a plusieurs opportunités, mais ce qui manque, c'est juste l'accompagnement. Comment est donner vie dans ces secteurs entrepreneuriels? Il y a aussi l'opportunité d'entreprendre dans plusieurs infrastructures, dans les domaines routiers, la construction et plusieurs autres.
Vous êtes avec les jeunes presque tous les jours. À quoi aspirent les jeunes?
La jeunesse du Haut-Touélé, nous sommes avec elle à tout moment et tous les jours. Les aspirations de la jeunesse du Haut-Touélé, c'est d'être formée, encadrée, accompagnée, a fait de transformer les milliers. On dit c'est l'homme qui transforme les milliers, c'est pas les milliers qui transforment l'homme. Donc la jeunesse du Haut-Touélé est aspirée par la transformation de son propre millier. Cette volonté-là, il y en a, parce que nous échangeons avec elle à tout moment et il y a des idées qui viennent partager avec nous. Parfois, nous-mêmes, on s'est dit si on avait les moyens, on pouvait les accompagner à atteindre ces objectifs-là. La jeunesse du Haut-Touélé est capable de transformer son millier, nécessairement si elle est encadrée, accompagnée et orientée.
Quelles sont vos relations avec les autorités locales sur le plan entrepreneurial?
Oui, pour ce qui concerne la collaboration, la communication avec les autorités locales, c'était le 24 et le 26 mars. On a organisé un atelier sur la cohésion sociale et la paix.
où nous-mêmes nous étions intervenants. Le fait de nous faire participer dans cet atelier-là comme intervenants, ça prouve déjà la considération que les autorités ont envers nous, parce que c'était une initiative du gouverneur des provinces. Dans cet atelier-là, nous avons ici à parler sur l'entrepreneuriat. Et l'exécutif provincial nous avait dit il y a le projet de la relance agricole de la province du Haut-Uele, où nous pouvons trouver plusieurs types de semences, les semences améliorées, où la jeunesse peut approcher les institutions attitrées en fait de faire la demande de ces semences-là. Il peut avoir aussi des accompagnements à terme financier pour les accompagner à faire quelque chose. Ça prouve quand même une collaboration étroite entre nous, les représentants de notre province du Haut-Uele.
Parlez-nous un peu, il y a des jeunes entrepreneurs dans la région ici. Qu'est-ce qu'ils font concrètement?
Dans la région, il y a des jeunes entrepreneurs qui essaient quand même de faire quelque chose avec les efforts personnels. Il y a de ces jeunes-là qui entreprennent dans les médias, par exemple. Il y a aussi de ces jeunes-là qui entreprennent dans les domaines agricoles, malgré la production ETP limitée, faute de certains supports tels que l'électricité, parce que ça fait partie aussi des éléments qui accompagnent l'entrepreneuriat. Ils œuvrent dans les volailles, certains travaillent dans l'élevage des porcs, et d'autres même travaillent dans la pisciculture. Ils les font. Il y a aussi certains qui sont dans la plomberie. Ils les font malgré ce pas encore d'appelaire dans la province. Il y a aussi certains qui travaillent dans la construction. Toutes les maisons que vous voyez là, la plupart de ces maisons, ce sont les jeunes entrepreneurs de la province du Haut-Uele qui construisent ces maisons. Dans l'électricité, ils les font malgré certains efforts dans les CRR. Donc, ils ont observé quelque part, ils ont essayé de capitaliser ça, afin de donner vie à cette activité-là. Donc, la jeunesse du Haut-Uele se débrouille quand même dans ces sens-là.
René Eyaka Ibambi, merci.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.